Radio Okapi.
À la présentation du journal, Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. C'est le lundi prochain que l'ordonnance sera rendue dans l'affaire qui oppose le député national Fabrice Puella à la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, devant le Conseil d'État. L'affaire déclarée close à l'audience publique de ce jeudi devant la Chambre du Conseil a été prise en délibéré. Fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévissait en République démocratique du Congo dans la province de l'Équateur et qui a fait 55 décès, dont deux personnels de santé. Le ministre de la Santé qui fait cette annonce invite par ailleurs la population à la vigilance. Docteur Kachouba Baweka François est notre invité. Il nous parle de la nécessité pour les femmes enceintes de suivre les consultations prénatales à partir du 3e mois de la grossesse pour éviter toute complication qui pourrait conduire à un accouchement prématuré. Vous les suivrez avant la fin de ce journal. Le Conseil d'État a pris en délibéré l'affaire qui oppose le député national Fabrice Puella à la présidente de l'Assemblée nationale Jeannine Mabunda. Il a promis de rendre son ordonnance le lundi prochain. Ainsi, l'affaire a été déclarée close à l'audience publique de ce jeudi devant la Chambre du Conseil. Les avocats de Mabunda ont plaidé pour l'irrécevabilité de la requête de Puella, tandis que celui-ci a rétorqué que leur argument est infondé. Reportage de Jeff Ngoy.
Nous sommes dans une audience de référé. Fabrice Puella demande au Conseil d'État de suspendre la décision de la commission de l'Assemblée nationale refusant la démission de son bureau et par ricochet de Jeannine Mabunda, soit de la destituer pour avoir violé l'article 139 du règlement intérieur de la Chambre basse. C'est sans intérêt ni qualité, attaquent les avocats de Mabunda, dont Papi Nyango.
Nous avons demandé au juge d'être assez vigilant parce qu'il statue sur une cause soutenue par des arguments et moyens frauduleux. Les défauts d'intérêt, parce que cette matière, ce débat, est dévolu à la plénière. C'est ce que le règlement intérieur dit.
L'avocat de Puella, Marcel Ntumba, contre-attaque.
C'est un argument qui ne tient pas debout. L'honorable Puella qui saisit, il est député national. Il a qualité pour venir devant la justice. L'Assemblée nationale, après avoir reçu la dotation et constitué son budget, doit présenter ses règlements financiers à l'Assemblée plénière. Le bureau de l'Assemblée nationale doit constituer une commission spéciale chargée de contrôler la dotation de l'Assemblée nationale.
La procédure devant le Conseil d'État en cette matière est un référé suspension, une procédure d'urgence et de raccourci souvent pour ne pas attendre l'issue d'une procédure d'annulation qui est longue et qui ne suspend pas les effets de l'acte attaqué.
Le budget 2021 devrait être présenté comme un budget de crise en priorisant les secteurs producteurs capables de réduire la pauvreté. Avis donné hier mardi par les ONG spécialisées dans les finances publiques et dans les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. Prenant part aux travaux d'examen du projet de loi des finances 2021 au sein de la commission Ecofin de l'Assemblée nationale, la société civile plaide notamment pour la réduction des écarts des rémunérations des membres du personnel politique. Elle soutient ainsi la retenue des 10 à 30% sur leur rémunération en guise d'efforts des solidarités nationales pour contribuer à la réduction de l'impact économico-social de la COVID-19. Michel Kifindangoy.
Dans un contexte de crise pandémique à COVID-19, la priorité budgétaire devrait notamment se focaliser dans les secteurs de la santé avec 10% au moins, de l'éducation 20% et de l'agriculture développement rural 10%, Martel Bishop Abraham Djamba du REGED.
Ce budget devrait être privilégié les secteurs pro-pauvres, mais aussi les secteurs producteurs. Parce que si ces secteurs-là ne sont pas érigés en priorité, eh bien, il n'y aura pas relance.
Pour arriver à assurer le financement des priorités, la société civile plaide pour la réduction du train de vie de pouvoir public. Georges Kapiamba de Lacage.
À l'ancien président pour lui demander à s'engager dans la renonciation d'une grande partie des avantages et que les aspects liés à la vie sociale, c'est-à-dire au peuple d'abord, soient pris en compte dans les budgets qui est en cours d'examen au niveau de l'Assemblée nationale.
Les organisations de la société civile soutiennent aussi la suppression des avantages accordés en plus de leurs indemnités de sortie aux anciens chefs des corps constitués, la réduction de la taille du gouvernement ainsi que la cessation de la budgétisation des structures et institutions comme le CENSA.
Reprise des consultations ce mercredi au Palais de la Nation après une petite trêve de 3 jours. Le chef de l'État poursuit ses discussions avec les différentes représentations de la classe politique congolaise, de la société civile et aussi de plusieurs autres couches socio-professionnelles. Débutées depuis le lundi 2 novembre dernier, les consultations visent pour le président de la République à prêter oreille à toutes les suggestions dans le cadre de la mise en place de l'Union sacrée pour la Nation. Jacques-Yves Molima.
En effet, c'est cela l'objectif ultime pour le chef de l'État, tout en se basant sur sa philosophie politique, à savoir le salut du peuple et la loi suprême. Félix-Antoine Tshisekedi attend mettre au premier plan, à l'issue de ses consultations, l'amélioration du vécu quotidien du peuple. C'est ce qui justifie à cet effet l'élargissement de son agenda aux consultations. À partir de ce mercredi, par exemple, l'agenda du chef de l'État prévoit les rencontres avec les caucus des députés du Sud Kivu et de la province du Maniema. Certaines personnalités politiques sont aussi attendues. C'est notamment le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, Adam Bombo, le chef du parti politique Congo Nabisso, Kiakwama Kiakiziki, mais aussi Jean-Baptiste Bomanza. Et comme pour rester dans sa logique d'élargir son assiette, le chef de l'État devra entre autres recevoir le groupe des paysans kassaïens du Katanga et la presse légendaire du Congo. D'après certaines sources de la présidence, il faut dire que les consultations sont sur la dernière ligne droite cette semaine, quand bien même plusieurs autres regroupements sont toujours dans l'agenda du chef de l'État. Palais de la Nation, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Okapi.
Migration décente et violence faite aux femmes et jeunes filles, c'est le thème du forum qui s'est ouvert ce mercredi ici à Kinshasa. Ces assises de 3 jours sont organisées par l'ONG Cause Rurale. Selon Pelagie Makedika, présidente de cette structure, il est question pendant cette rencontre de réfléchir entre autres sur la politique migratoire en RDC et sur les engagements pris par le gouvernement au niveau national et international en cette matière. Pelagie Makedika l'est dit au micro de Paul Matendo.
Il est prévu plusieurs interventions. On va réfléchir sur la politique migratoire dans notre pays ou la gestion des migrations de manière globale. Nous allons aussi réfléchir sur la dignité de la femme et de la jeune fille. Nous allons réfléchir sur les engagements pris par notre pays au niveau international, régional et sous-régional. Et nous allons réfléchir aussi sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Bref, des alternatives capables de maintenir les jeunes, surtout au pays. Parce que nous sommes tous témoins de la manière dont les Congolais sont expulsés par nos pays voisins. Il y en a peut-être qui attendent leurs fils, qui ne savent pas qu'ils sont déjà décédés. Il y en a qui passent au tabac, il y en a qui sont emprisonnés. Les femmes sont victimes de violences à répétition. Vous recevez un expulsé avec un enfant qui ne lui appartient pas parce qu'il a peut-être rencontré sa maman décédée en forêt. Et ce sont les situations que nous rencontrons à la frontière dans l'accompagnement des expulsés.
Le ministre de la Santé annonce la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Déclarée le 1er juin 2020, l'actuelle épidémie constitue la 5e dans le Grand Équateur et elle survient 2 ans après la précédente épidémie dans cette même province. Tout en soulignant qu'elle est survenue dans un contexte particulier marqué par l'expansion de la pandémie du coronavirus, le ministre de la Santé invite la population au respect strict des gestes barrières. Car si Ebola est pour l'instant vaincu, le coronavirus continue à faire des ravages à travers le monde et sur le continent avec une augmentation de cas en RDC, a-t-il souligné. S'agissant d'Ebola, le ministre de la Santé en appelle aussi à la vigilance pour éviter que la maladie ne refasse surface. Suivez cet extrait du message du docteur Étienne Longondo adressé à la Nation ce matin dans son cabinet.
Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la République démocratique du Congo continue à faire face à la pandémie de la COVID-19. Pour vaincre ces fléaux, la population congolaise est conviée à respecter scrupuleusement le geste barrière. De ce fait, nous rassurons la population de l'Équateur qu'une équipe continuera à soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte et renforcer les systèmes de santé de la province. Ainsi, il leur est recommandé de continuer à maintenir le mécanisme d'alerte et de surveillance à base communautaire, afin de rester vigilant pendant toute la période de la pré-épidémie de la maladie à virus Ebola.
Et s'agissant des chiffres, retenez que cette 11e épidémie de maladie à virus déclarée dans la province de l'Équateur a affecté 13 zones de santé sur les 18 que compte la province. 42 aires de santé sur 284 ont notifié au total 130 cas, dont 119 confirmés, 11 probables. On a enregistré 500 décès, dont 2 personnels de santé et 75 personnes guéries. Je témoigne ma reconnaissance à toute l'équipe de la Riposte et tiens à saluer l'engagement des communautés sans lesquelles l'épidémie n'aurait pas pu être contenue si rapidement. Déclaration du coordonnateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo à l'annonce de la fin de cette 11e épidémie d'Ebola. David Marc Laclancar salue aussi la collaboration étroite entre la RDC et la République du Congo qui a permis d'éviter que la maladie ne traverse le fleuve. Il félicite également le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que tous les partenaires locaux et internationaux qui ont lutté plus de 5 mois contre cette épidémie. Il faut à présent prendre en charge les orphelins et les survivants et survivantes doivent être soutenus, a-t-il souligné. À Goma, au Nord Kivu, le collectif des associations féminines pour le développement CAFED a lancé ce mercredi le projet Protégeons-nous Tujikinge en Swahili. Ce projet financé par la MONUSCO à hauteur de $45,000 vise la sensibilisation contre la COVID-19. Le collectif vient de produire dans le même cadre un lot de 40 000 masques de protection. Quelques groupes de femmes sont particulièrement ciblés, dit la vice-présidente du CAFED. Isabelle Pendeza est au micro de Bernardin Nyangui.
C'est un projet qui va prendre 3 semaines de sensibilisation, mais aussi des distributions gratuites de masques lavables. Et notre cible, il y a les jeunes, il y a aussi les femmes marchandes au sein du marché. Nous allons nous focaliser beaucoup plus dans la sensibilisation afin d'apporter notre expertise dans la communauté, mais aussi appeler la population à prendre aussi un engagement communautaire dans la lutte contre la COVID-19. Du fait que cette maladie n'est pas encore terminée, ce projet a été financé par la MONUSCO de par sa section des affaires politiques. En fait, les 40 000 masques qui ont été produits par les CAFED ne seront pas suffisants pour toute la population de Goma. C'est la raison pour laquelle nous plaidons encore une fois et nous appelons aussi aux autres partenaires de soutenir. Aujourd'hui, il y a encore une flambée des cas de coronavirus dans la République démocratique du Congo. Et nous devons apporter notre contribution afin de lutter contre cette pandémie qui est une maladie ravageuse.
Le ministre provincial de la Santé au Nord Kivu qui a réceptionné ces lots de 40 000 masques a rappelé que la RDC a déjà notifié plus de 50 nouveaux cas de contamination au COVID dans cette deuxième vague de la pandémie, d'où selon lui la nécessité du respect des mesures barrières. Et en bref, à Beni, 7 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux ADEF dans la nuit de lundi à hier mardi à Baïti, village situé dans le groupement des Batangimbaou. Selon la société civile des Mamové, parmi les victimes figurent 2 femmes et 5 hommes. Toutes les victimes ont été tuées à la machette, affirme la société civile locale des Mamové près du lieu du drame. Selon son président, les assaillants identifiés seraient venus de Mebendou à quelques 2 kilomètres de Baïti où ils auraient érigé leur camp. Depuis le 3 octobre dernier jusqu'à ces jours, la société civile des Mamové dresse un bilan de 105 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. La société civile demande au FARDC de lancer des opérations vers les villages de Mebendou, Masesele et Mabatandou où il y aurait encore des camps rebelles. Tous nos efforts pour joindre le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 afin d'en savoir un peu plus se sont avérés vains. Toujours au Nord Kivu, un consortium de 5 organisations internationales dont Merci Corps a lancé hier mardi à Goma un vaste projet visant l'amélioration de la desserte en eau potable et en assainissement. Il est financé par l'agence américaine USAID à hauteur de $32 millions pour une durée de 5 ans. Ce programme dénommé LIFT cible quelques milieux périurbains dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les détails de ces projets avec Mathieu Ilunga Chamboui.
Ce projet vise à résoudre la faible couverture en desserte en eau potable, mais aussi à juguler les mauvaises conditions hygiéniques dans les zones sorties des conflits armés dans l'est de la RDC. Il prévoit ainsi l'amélioration ou la reconstruction des infrastructures détruites pendant ces années de conflit, sans oublier la montée rapide de la croissance démographique de la population. Pour la vice-gouverneure du Nord Kivu, ce projet intervient à point nommé, Madame Marie Lumoho Kaombo.
C'est moins de l'intérêt que vous avez dans la recherche de solutions aux problèmes d'accès à l'eau potable qui constitue l'une signe des contraintes majeures du développement économique et social dans la province de Nokia. Je saisis cette occasion pour saluer les efforts de l'organisation Merci Corps.
La cérémonie du lancement du projet a fait l'objet d'un échange sur les objectifs visés par le projet entre les bailleurs ISAID et du consortium LIFT en présence de représentants du gouvernement, de partenaires de la mise en œuvre, de la société civile ainsi que de parties prenantes. Cet important projet cible et concerne essentiellement les villes de Goma et Bukavu ainsi que les communes rurales de Kiwandia, Kichanga et Beni pour le Nord Kivu et Kavumu et Kabare pour le Sud Kivu. Mathieu Ilunga Chambou Manachebe, Goma, Radio Okapi.
En Ituri, paralysie des activités ce mercredi dans l'ensemble de la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. C'est à la suite du mot d'ordre de la société civile de cette entité qui a décrété des journées ville morte. Cette structure citoyenne s'insurge contre les délabrements très avancés de la route Makeke-Mambasa qui, selon elle, permet au gouvernement provincial de générer beaucoup de recettes. Martial Kizabia Mungu.
Ce matin, boutiques, magasins, marchés sont fermés. Toutes les activités sont donc paralysées dans les entités de la chefferie de Babila Babombi. C'est conformément au mot d'ordre de la société civile, aux opérateurs économiques et à toute la population locale pour dénoncer la dégradation de la route nationale numéro 44 reliant les territoires de Mambasa à Ituri à celui de Beni au nord Kivu. Selon les présidents de la société civile de cette entité coutumière, ce tronçon est abandonné par les autorités provinciales. Et pourtant, c'est une route d'importance capitale qui facilite l'évacuation des cacao, des bois et des produits vivriers de Mambasa vers d'autres entités de la RDC et même à destination de pays voisins. Jean-Marc Saïno, son président, dit avoir écrit plusieurs fois aux autorités provinciales pour intervenir sur cette route, mais en vain. De son côté, les ministres provinciaux des ITPR rassurent que des dispositions sont en train d'être prises avec des partenaires pour entretenir cette route. Bounia, Martial Kizabia Bongo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après trois jours de deuil national, mais aussi de communion nationale autour de la figure du défunt président Amadou Toumani Touré, la réalité sociale et politique reprend ses droits. L'UNTM, premier regroupement syndical du pays, a débuté ce mercredi 18 novembre, trois journées de grève. Un appel à cesser le travail qui concerne tous les secteurs. Cet appel à la grève des 72 heures ne tombe pas au meilleur moment pour les autorités de transition. Les revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali sont essentiellement des revendications salariales ou en tout cas lié aux revenus des travailleurs maliens.
L'invité.
Il est recommandé aux femmes enceintes de suivre les consultations prénatales à partir du troisième mois de la grossesse pour éviter toute complication qui pourrait conduire à un accouchement prématuré. Cet appel a été lancé à Butembo hier mardi par le médecin pédiatre Kachuva Baoika François à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la prématurité. D'après lui, les mauvaises conditions de prise en charge des enfants prématurés ne leur donnent pas beaucoup de chances de survie. Docteur Kachuva Baoika François s'entraîne avec Alicia Kapisa.
Docteur Kachuva Mbahweka François, bonjour.
Bonjour madame.
Que peut-on attendre par une naissance prématurée?
La naissance prématurée est simplement celle dite naissance avant terme. Un enfant qui naît à terme est capable de faire une vie extra-utérine normale et autonome. Le prématuré, c'est l'enfant qui naît avant 38 semaines de gestation, avant la fin de la croissance.
Qu'est-ce qui est à la base de cette naissance?
Tout dépend justement de la maladie que la maman a développée, de sa façon de mener sa vie économique, une vie sociale, de sa profession. Donc il y a plusieurs causes autour de la prématurité.
Par rapport aux régions, y a-t-il pas des causes dans ce sens?
Évidemment, si nous parlons de notre région, par exemple où nous avons une endémie de paludisme, le paludisme est à la base de plusieurs accouchements prématurés.
Comment est-ce qu'est faite la prise en charge des personnes nées avant terme?
C'est une prise en charge spécifique. Parce que chez cet enfant prématuré, nous avons des fonctions qui sont encore immatures. C'est un enfant qui ne sait pas maintenir sa température corporelle. C'est un enfant qui a une immaturité digestive, une immaturité pulmonaire. La prise en charge consiste à traiter cet enfant en prenant en compte toutes ses immaturités. Donc c'est un enfant qui doit être protégés contre le froid. Ici chez nous, nous avons l'habitude d'utiliser la couveuse, d'utiliser aussi des bouillottes, parfois aussi un habillement consistant. L'enfant collé contre sa mère, ça l'aide aussi à être chauffé. Chez cet enfant, nous devons utiliser un lait spécial fabriqué pour les prématurés et qui donc considère ses fonctions digestives qui ne sont pas encore matures. C'est un enfant qui a besoin d'examens spécifiques pour contrôler l'infection, surtout pour contrôler aussi d'autres paramètres vitaux qui à tout moment peuvent être perturbés, surtout quand il s'agit de surveiller la fonction respiratoire.
Quel mot à placer par rapport à l'avenir de cette catégorie d'enfants?
Si on parvient à sauver un prématuré, il n'est pas différent du nouveau-né à terme. Bien sûr, ils naissent avec un petit poids, c'est tout à fait normal, un poids qui est conforme à leur âge gestationnel. Mais dès qu'il a gagné le poids, il grandit comme tout autre enfant. Les complications qui peuvent se présenter, ce sont les complications d'une infection qui est arrivée. Comme tout nouveau-né qui a une infection, par exemple la méningite, cet enfant peut développer une affirmité cérébrale motrice. Mais ce n'est pas tellement lié au prématuré. Chez les prématurés, ce qu'il faut craindre, c'est parfois des hémorragies intracérébrales et c'est sur ces hémorragies-là qui peuvent handicaper un jour leur développement psychomoteur. Mais sinon, un prématuré, si on parvient à le sauver, ce n'est pas un enfant qui devrait nous faire peur.
Quel est le taux de mortalité de cette catégorie de personnes?
Ici chez nous, nous sommes dans les 16 pour 1000, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ne trouvent pas chez nous les conditions convenables pour les élever. Parfois, ils naissent dans des conditions qui ne respectent pas le réchauffement de l'enfant, l'asepsie, la nutrition de ces enfants-là. C'est comme ça que, justement, leur taux de mortalité est encore élevé chez nous.
Comment prévenir les naissances prématurées?
La prévention dépend des causes, c'est-à-dire les mères enceintes qui vivent dans les zones où il y a beaucoup de malaria. Cependant, la grossesse qu'on doit faire la prévention. Si c'est une maman qui a été exposée à l'infection, on devrait d'abord détecter l'infection pendant la CPN et la traiter. Il y a des causes mécaniques, par exemple, si c'est une maman qui est surchargée par les travaux de ménage, on devrait permettre que cette maman puisse commencer à se reposer, aller au carava en attendant. Si c'est une maman qui a déjà eu beaucoup de grossesses, on devrait se dire, donnons-lui un temps suffisant pour se préparer à l'accouchement. La prévention, c'est faire participer à la CPN et exécuter une bonne CPN chez toute femme enceinte.
Docteur Katsuva François, merci.
Merci aussi.
Merci à Dieudonné Nyangasa qui a mis en nom de ce journal coordonné par Noëlla Luzitu sous la supervision d'Axel Goncho. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations sur www.radiokapi.net.